Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné numéro 33? L'assurance, l'amour, la satisfaction et la vie. Voyen Kozurek, avril 8, 2015. À Jean 5h12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous étudions toujours pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et nous sommes environ à 10 paragraphes de la fin. Ce soir nous étudierons ce que frère Branham a dit au paragraphe 89 et 90. 160 comme Abraham, Isaac, et Jacob ont séjourné, en habitant dans des tentes dans le pays. Ils ont professé être des pèlerins et des étrangers, la semence de l'héritier, l'héritier là-bas. Le Père, l'héritier. Nous sommes leur semence. Et ils cherchaient une ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Amen. Ils cherchaient. 161 et, aujourd'hui, leur semence cherche toujours une ville à venir, en disant, Jérémie veut pas m'adapter à ce monde. Jérémie veut rien avoir à faire avec ce monde. Je veux, j'attends une ville qui est Esther construite en carré. J'attends une ville qui a la vie éternelle, où le soleil ne se couchera jamais, où il n'y aura jamais de vieillesse, où il n'y aura jamais un morceau de crêpe noire accroché à la poignée d'une porte, ou une tombe sur le flanc de la colline. J'attends cette ville, dont l'architecte et le constructeur, c'est Esther Dieu. 162 Il n'y a qu'un seul moyen de la trouver. Il y a une pierre qui s'est Esther détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a roulé pour aboutir dans le monde et l'écraser, et il est Esther devenu comme du blé, ou de la balle sur une aire. Que cette pierre, ce Jésus-Christ, cette pierre d'achoppement pour le monde, une pierre de scandale, une pierre de risée, une pierre d'achoppement pour l'Église, mais une pierre précieuse, une pierre d'aimant pour le croyant, une pierre d'assurance, une pierre de repos. Oh là là, au repos. Je sais que je suis passé de la mort à la vie. Mon âme est Esther au repos. Oh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. À un signe dont on dira du mal à qui? A dit le prophète à Marie. Ce sera un signe? Bien sûr que oui. Mais ce sera une assurance. Ce sera deux amour. Ce sera trois satisfaction. Ce sera quelque chose qui, 4, vous fait savoir que vous êtes passé de la mort à la vie. Ainsi, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il a dit, pour l'assurance, pour l'amour, pour la satisfaction et pour vous faire savoir que vous avez la vie. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu notre texte dans 1 Jean 5h12 où on nous dit, celui qui a fait l'écho du le Fils a fait l'écho de la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a mis fait l'écho pas du de Dieu n'a pas n'a mis fait l'écho pas de la vie. Et nous trouvons que le mot traduit comme Esther utilisé plusieurs fois dans ce verset, et il a été traduit du mot grec écho. Maintenant, si les traducteurs avaient laissé le mot écho non traduit comme ils avaient laissé le mot baptisme et non traduit, que nous retrouvons dans notre mot baptême, alors notre compréhension de ce verset de la Bible serait complètement différente de ce que la plupart des hommes liront en utilisant le mot au lieu de écho. En lisant ce verset avec le mot non traduit nous le lirons ainsi, celui qui fait l'écho du Fils fait l'écho de la vie. Celui qui n'a mis fait pas l'écho du Fils de Dieu n'a mis fait pas l'écho de la vie. Maintenant, cela signifie que comme Dieu est la fontaine de vie et dans Jean 5h26 nous avons lu, en effet comme le Père a la vie en lui-même, ainsi l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Par conséquent, nous voyons que la vie vient du Père et puis dans le Fils et dans les fils. Et en lisant ce verset également avec le mot icône, on traduit. On lit, Jean 5h26, en effet comme le Père fait l'écho la vie en lui-même, ainsi la donne au Fils de faire l'écho de la vie en lui-même, et comme le cœur pompe le sang encore et encore pour faire l'écho de la vie dans le corps, de même la parole du Père produit l'écho encore et encore dans sa pensée, et puis quand l'écho commence à sortir du Père, ce même écho de la vie est à rentrer en manifestation, d'abord dans son Fils et puis dans des fils. Écoutez attentivement ce que frère Branham dit à ce sujet. Qui dites-vous que s'est-il? 64-1227, 66. Vous avez un attribut. S'est-il votre pensée? Vous pensez à quelque chose, ensuite vous prononcez la chose, ensuite vous en prenez possession. S'est-il comme ça pour Dieu? Il, au commencement. Si vous êtes, si vous avez déjà été ou si jamais, un jour, vous êtes au ciel, c'est-à-dire que vous étiez au ciel, au départ. Vous êtes une partie de Dieu. Vous étiez sa pensée. Il connaissait votre nom. Il savait qui vous étiez, avant même qu'il y ait une molécule, avant qu'il y ait une lumière, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Il vous connaissait, et connaissait votre nom. Et il l'a mis dans le livre de vie de l'agneau, avant même que le monde ait été formé. Voyez-vous, vous étiez sa pensée. Ensuite vous êtes devenu une parole. Et une parole, c'est une pensée exprimée. Ensuite vous êtes manifesté. 67 C'est comme ça qu'il était. Au commencement, il était seul. Dieu habitait seul avec ses pensées. Il n'aimait le fera plus jamais, parce que ses pensées sont en train de se manifester. Et c'est pourquoi nous sommes ici même, en ce jour. C'est Dieu qui est en communion avec ses pensées qui sont en train de se manifester. Voyez? Nous y voilà. Alors, vous, par vos inquiétudes, vous Néhémie pouvez pas ajouter une coudée à votre taille. Vous Néhémie pouvez pas produire ceci, cela ou autre chose. C'est Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et nul Néhémie peut venir, si mon Père Néhémie l'attire. Un point c'est tout. Maintenant, nous pouvons voir que 1 Jean 5h12 est un parfait écho de 2 Jean 9. Dans le sens que les deux versets parlent de ce grand écho de la vie, qui est sorti de Dieu et dont le Fils de Dieu a fait l'écho et puis nous qui sommes capables de recevoir les doctrines de Christ. Lisons juste encore 2 Jean 9. Quiconque n'arrive pas à suivre, va au-delà des limites de la doctrine du Christ Néhémie, fait pas l'écho de Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, il fait l'écho du Père et du Fils. Maintenant, regardons ce que Jésus a dit de lui-même. Remarquez, dans les 4 prochains versets des Saintes Écritures, Jésus nous dit exactement ce que frère Branham a dit ici. Jean 12h49 « Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a. » Jean 12h50 « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. » Jean 14h31 « Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. » Jean 15h10 « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Maintenant, examinons encore ce que William Branham a dit au sujet de retour d'écho de la parole de Dieu. Pourquoi je suis contre la religion organisée 62-11-11-218 remarqué, ceci, c'est l'ange de lumière. Souvenez-vous, le dernier ange, Sester l'ange de l'âge de l'église de la Odyssée. Sester le messager de la Odyssée, qui est Ster le dernier. En effet, le chapitre qui suit directement, Sester le chapitre 19. Ce qui est Ster la venue de l'épouse. Et dans les Écritures, Sester le dernier ange qui est Ster venu apporter les lumières avant la venue de l'épouse pour aller à la rencontre de Christ. C'était donc l'âge de l'église de la Odyssée. Qui était le messager de l'âge de l'église de la Odyssée qui appelle les gens à sortir de Babylone? Suivez. Des églises ont été prises dans son repère à elle par ses dogmes, en reniant la parole et en acceptant des dogmes. Celui-ci, c'est Esther l'ange de la lumière qui Esther envoyé à l'église de la Odyssée qui avait rejeté Christ et sa parole, pour des dogmes qu'il avait mis dehors. Et il se tenait à la porte en train de frapper, cherchant à entrer. Voyez-vous cela? Cet âge de l'église a rejeté Christ. Et Christ Esther la parole. Et on a rejeté cela et il était à l'extérieur. C'est Esther le seul âge de l'église où Christ Esther à l'extérieur, frappant à la porte, cherchant à entrer. Et le message de cet ange, le messager venu de Dieu, faisait retentir l'écho son message sur la terre, sortez de Babylone. Sortez des organisations. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est Esther cet ange qui cherchait à amener les gens à la parole. Car le Saint-Esprit Néhémie confirmera que la parole. Il Néhémie peut pas confirmer des dogmes. Ils n'ont pas de vie. Il est Esther la vie. Remarquez, l'âge de l'église de la Odyssée a renié, l'a rejeté, et l'a mis dehors. E209 remarqué. Cet ange Esther le dernier messager avant la venue de Christ, dans Apocalypse au chapitre 18. La voix du messager, si nous remarquons bien, quand il a fait retentir sa voix sur la terre, cette voix a fait aussi écho au ciel, le verset 4. Si vous voulez le lire, très bien. Le verset 4, du chapitre 19. Ce messager terrestre était si soumis à Dieu que lorsqu'il a proclamé cela sur la terre, Dieu a fait écho de la même chose depuis le ciel. Quelle est-elle la traduction du verset 4? Qu'est-elle ce que cela veut dire? C'est Esther la voix de Dieu s'adressant à son peuple prédestiné, disant, sortez du milieu d'elle, très exactement ce qu'était cette voix. Il y a des gens partout là-bas. Partout dans Babylone. Sortez du milieu d'elle, afin que vous Néhémie participiez pas à ses péchés, oui, monsieur. Sortez de ses dogmes et de ses credos pour aller à la parole rendue esprit et vie. Amen. Et c'est exactement ce que nous voyons également dans 1 Thessaloniciens 4. Le Seigneur lui-même descend avec un cri. C'est exactement Apocalypse 10. L'ange puissant descend sur la terre avec une voix forte, qui Esther un cri, et il donne ce cri au septième ange qui Esther sur terre au moment de cette venue. Puis il en fait l'écho au monde. Il y a maintenant ici plus grand que Salomon 64-0306-23. Il faut qu'il y ait un signe surnaturel qui vient de Dieu, pour confirmer. Peu importe combien ça avait l'air vrai, combien c'était d'une théologie profonde, combien ça avait l'air bon, quand même, si le signe surnaturel de Dieu Néhémie le confirmait pas, ce n'était pas vrai, pour le juif. 24. Or, l'Ancien Testament, le pectoral d'Aaron a été aboli, avec l'Ancienne Alliance. 25. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a encore l'Urim Thummim. C'est-à-dire à dire que si un prophète, un songeur, un théologien, ou quoi que ce soit, prononce quelque chose de contraire à la parole, et que Dieu n'y fait pas écho par la parole, je le laisse de côté, parce qu'elle est l'Urim Thummim de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur, Que cesse-t-elle la parole de Dieu? Démonologie domaine religieux 2, 53-06-09-99. Bon. Et puis. L'Urim Tumim. Aujourd'hui. Cesse-t-elle cette Bible? Si quelqu'un a donné une prophétie ou un songe, et que ça n'est mis concorde pas ou n'est mis se reflète pas dans la Bible de Dieu, c'est-elle faux? Néhémie le croyait pas. La parole parlait Esther, la semence originelle 62-03-18. La parole de Dieu Esther continuellement active. 34. On m'a dit que, si nous pouvions avoir l'instrument capable de la capter, que la voix d'un homme, ma voix, avec laquelle je m'exprime aujourd'hui, dans 10 000 ans, on pourrait encore la capter dans l'air. Cesse-t-elle comme laisse tomber un pétale au milieu d'un étang. Les minuscules vaguelettes, après qu'elles n'aient mis, sont plus visibles à l'œil nu. Elles continuent jusqu'à ce qu'elles atteignent le bord. De même, l'onde de nos voix voyage continuellement, tout autour du monde. Ainsi donc, notre voix, ce que nous disons, cesse-t-elle ce qui nous jugera. Notre témoignage s'élèvera lui-même contre nous. Nos voix retentiront elles-mêmes dans nos oreilles, au tribunal du jugement de Dieu, quand son grand instrument captera chaque voix qui cesse-t-elle fait entendre, chaque parole qui a été marmonnée. Ainsi, de quoi faites-vous l'écho aujourd'hui? Parce que ce dont vous faites l'écho aujourd'hui sera rejoint au jugement du trône blanc. Alors si toutes nos paroles sont les paroles de notre Père, Dieu, alors Néhémie sera-ce pas une merveilleuse expérience au jugement du trône blanc? Néhémie sera-ce pas merveilleux pour Dieu notre Père, et tous les saints, et tous les anges d'entendre les paroles de notre Père être en train d'être répétées à ce moment-là, alors que notre vie est revue devant tous? Alors que sera votre écho? Sera-ce ses propres paroles sortant de votre bouche? Ou sera-ce des échos mondains? Des chansons mondaines? De convoitises et de péchés? Entendrons-nous tous des chants de louanges en ce jour-là? Ou entendrons-nous les paroles de la musique country lorsque votre vie est rejouée devant tous? 1 Jean 5h12 dit, celui qui fait l'écho du Fils fait l'écho de la vie. Et celui qui Néhémie fait pas l'écho du Fils de Dieu Néhémie fait pas l'écho de la vie. En d'autres termes, notre vie en Christ devient un écho des paroles du Père pour que chacun entende. Car le Fils de Dieu fait l'écho des paroles du Père, et quand nous faisons l'écho ces paroles nous faisons l'écho des paroles de la vie. Et savez-vous que le Fils de Dieu était tellement focalisé sur une seule chose, qu'il a exclu tout ce qui n'était pas du Père? Rappelez-vous quand nous avons parlé des paraboles que Jésus a racontées. Matthieu 6h22-22. La lumière du corps cesse-t-elle l'œil? Si donc ton œil est seul ou unique, ton corps tout entier sera plein de lumière. Qu'agit? Rappelez-vous quand nous avons étudié cette parabole, nous avons constaté qu'il n'est mis, parlait pas de si nous avions un œil comme un cyclope, mais plutôt quand il dit, si donc ton œil est seul ou unique, il parlait d'être focalisé sur une seule chose. Et si nous sommes focalisés sur une seule chose comme l'était Jésus, alors nous serons pleins de la lumière. 23. Mais si ton œil est mauvais, ça signifie s'il arrivait que votre focus déviait de la vérité, ton corps tout entier sera plein d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité? Nous trouvons dans Esaïe 42, 19 qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle, comme celui qui a trouvé la paix, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? KJV Esaïe 42, 19 qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'ai envoyé, qui est aveugle comme celui qui est parfait, et aveugle comme le serviteur du Seigneur? La traduction Rotetam qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur? Ou sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est-ce aveugle comme un ermite intimestère aveugle? Ou aveugle comme le serviteur de Jéhovah? La Bible de Jérusalem qui est-ce aveugle, si ce n'est mon serviteur? Qui est-ce sourd comme le messager que j'envoie? Autrement dit, on devrait lire, qui dans le monde entier est-ce aussi aveugle que mon serviteur? Qui est-ce ainsi conçu pour être mon messager de la vérité? Qui est aussi aveugle que celui qui m'est dévoué, le serviteur du Seigneur? Ainsi, nous voyons ici que Jésus-Christ était absolument aveugle par rapport à tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu et au dessein de Dieu. Maintenant, ceci nous amène au cinquième avantage de notre série, et le cinquième avantage pour nous en croyant la relation entre le Père et le Fils, c'est de savoir que nous avons la vie. Maintenant, c'est différent de faire l'écho de la vie. De savoir que nous faisons l'écho de la vie apporte l'avantage du repos. Et si nous savons que nous faisons l'écho de la vie, toute notre nature change, et donc notre relation avec Dieu change, et ainsi, nous entrons dans une telle paix que personne n'est mis. Pourrait vous ravir votre confiance dans votre relation avec Dieu, et donc avec la parole de Dieu. Nous trouvons le texte pour cette étude dans 1 Jean 5:13. 1 Jean 5:13 « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu. » Qu'agit, à nouveau, nous constatons que le mot avait ici, pas comme avant. Ce mot a été traduit comme du mot grec écho. Ces choses que je vous ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez fait l'écho de la vie éternelle, et afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Donc ici, ce n'est pas le fait que vous faites l'écho, mais que vous savez que vous faites l'écho. Parce qu'alors l'écho n'est pas simplement quelque chose que vous faites comme le résultat d'une étude par cœur, comme si vous étiez simplement capable de répéter. Parce que simplement répéter n'est signifie pas que vous savez comprenez vraiment ce que vous faites. Mais de savoir que vous faites l'écho autour des mêmes paroles que le Fils, veut dire que vous comprenez également ce que sont les paroles que vous dites. Combien de personnes peuvent citer les Écritures mot pour mot et n'aiment pas même savoir ce qu'elles disent? Le monde dénominationnel est rempli de ce genre de personnes. Et Jésus a tout le temps rencontré ce genre de personnes. Qui dites-vous que c'est? 64-1227 70 de plus. Là l'Église l'avait vu déployer sa grande puissance, alors qu'il manifestait. Qu'il manifestait quoi? Il n'est mis manifestait pas un credo. Il manifestait la parole. Il était, lui-même, la parole ointe. Et quand ils ont vu cela se produire, la manifestation, le Messie oint, ils l'ont rejeté. Ils n'en voulaient pas. Ce n'était pas à leur goût. C'est ça qui est pitoyable. Combien? Pensez un peu à ça. Exactement comme aux autres époques. 71 Voyez-vous, chacun avait sa propre interprétation de la parole. Sester Saki. Sester pour ça qu'Israël n'a pas reconnu Moïse. Sester pour ça que le monde n'a pas reconnu Noé. Sester pour ça que tous les prophètes, on a émis les a pas reconnus. Les gens ont leur propre interprétation de la parole. Mais Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Voyez? Rejeter le message de Noé, c'était rejeter Dieu. Rejeter Noé, c'était périr. Rejeter Moïse, c'était périr. C'était. Ils étaient les Messie oints. Pour cet âge-là, la parole qui avait été promise pour cet âge-là. Et, quand Jésus est revenu, il était la plénitude de la parole. 72 Dieu lui-même, dans une charpente humaine, avec des osées et de la chair, le oint. Ça. Ils auraient dû le voir. Mais, voyez-vous, leur monde ecclésiastique avait tellement ajouté ici, et retranché là, et ainsi de suite, que c'était un vrai gâchis, au point qu'ils faisaient confiance à leur église plutôt qu'à quelle parole. Et, quand ils ont vu leur église ointe, là ils ont considéré que quelque chose de glorieux était en train de se produire. Par contre, quand ils ont vu la parole ointe, là ils ont dit, Cester du fanatisme, ça. Cet homme Esther un démon, un Belzébul. En effet, c'était tellement contraire à leur église que, au credo de leur église et à ce qu'ils avaient fait. Et c'était comme ça à la venue de chaque prophète, l'église était chaque fois en plein gâchis. 82 Au fait, saviez-vous que la parole de Dieu n'est-elle jamais venue à un théologien? Trouvez les passages de l'écriture qui montrent qu'elle l'aurait fait. La parole Néhémie vient pas au théologien. Pas du tout. Mais, vous voyez, si la parole était manifestée aujourd'hui, la parole pour notre temps, elle le serait au goût de la parole de Dieu. Non pas au goût de l'idée de quelqu'un. Dieu prendrait sa parole qu'il a promise pour aujourd'hui, il l'oindrait, et la chose arriverait. Cester tout. Il n'y a pas moyen de l'empêcher d'arriver. Elle arrivera quand même, quoi que l'Église dise et quoi que les autres croient. Ça. Dieu le fera quand même. Il n'y aurait qu'un très petit nombre de gens qui en auront connaissance. Cester vrai? Qu'un très petit nombre. Ça a toujours été comme ça. Ainsi vous voyez, quand nous parlons de faire l'écho de la parole de Dieu, la compréhension doit être là sinon l'économie donnera pas vraiment un son certain, mais un bruit incertain. Mais nous voyons l'avantage de savoir que nous faisons vraiment l'écho du Fils de Dieu et donc de la vie qui était manifestée dans le Fils. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous faites l'écho de la vie éternelle, et afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Comme j'ai dit plus tôt, l'avantage de savoir que nous faisons l'écho, c'est-à-dire que nous recevons une paix certaine et nous nous reposons de nos œuvres, et entrons dans une assurance de foi qui nous introduit dans une paix qui surpasse toute compréhension. Nous nous retrouvons à dire la même chose que le prophète a dite, quand nous sommes confrontés à la même incrédulité à laquelle il était confronté. Je n'ai mis sais pas combien de fois cela m'est arrivé quand des hommes soulèvent une question, ou remettent en question notre compréhension de la doctrine de Christ, et je trouve des paroles qui sortent de ma bouche auxquelles je n'ai jamais pensé, mais quand je les vérifie, plus tard, je découvre que frère Branham avait dit ces mêmes paroles. Et alors cela apporte la consolation. Rappelez-vous, Jésus a dit, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est au ciel. » Et sachant que le mot « confesser » a été pris du mot grec « homologéo » qui signifie les mêmes paroles, je trouve cela très réconfortant de me retrouver à dire les mêmes paroles que le Fils de Dieu, parce que ce sont des paroles de vie qui sont sorties du Père. Car Jésus dit, « Mes paroles sont esprit et elles sont vie. » Maintenant, ce repos dont il est parlé doit se produire en cette heure, et on l'appelle parousia en grec, ce qui signifie une certaine hardiesse ou audace à parler. Parousia, l'assurance. Confiance ouverte. L'absence de la crainte lors d'une prise de parole. Ce mot parousia est un mot grec utilisé dans les Écritures pour montrer l'assurance, la confiance ouverte et l'absence de crainte. Je place ce verset parmi ceux qui se rapportent à l'état des élus du temps de la fin. Cet état d'assurance, de confiance et d'absence de crainte, sont un résultat direct de la parousia de Christ, sa manifestation dans son vrai caractère et le fait que quand il révèle ouvertement qu'il est Esther, pourquoi il est Esther ici, Cela introduit les élus dans une dimension où maintenant ils savent et apprécient leur propre position en Christ. Cela les rend audacieux et sans honte devant lui. Et donc nous examinerons dans cette section le mot « parousia » et comment il est lié à la révélation de Christ en 7 heures. Jean 7h13 personne. Toutefois, Néhémie parle la parousia de lui, par crainte des Juifs. Ceci prouve clairement que la parousia est liée au fait de Néhémie pas avoir de crainte et ces personnes Néhémie pouvaient pas avoir la parousia, l'absence de crainte et puis avoir la crainte en même temps. Ils étaient trop concernés par ce que les autres pensaient, et pas assez concernés par ce que Dieu lui-même pensait. C'est là où la parousia intervient. Quand nous sommes tellement remplis du sens d'honorer Dieu que nous n'avons pas d'autre pensée que ces pensées que nous sommes disposés et voulons exprimer. Mais quand les gens cherchent à être bien vus des hommes, ils ajusteront alors leurs paroles pour plaire aux hommes. Mais ceux avec la parousia sont ceux qui, parce qu'ils savent qui ils sont et qu'il est ici, ils sont disposés à Néhémie dire que ce qu'il a dit, et à Néhémie faire que ce qu'il dit de faire. Ils ont une haute estime de la parole confirmée de leur, et aucune autre parole n'a de la valeur à leurs yeux. Jean 2h28 et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera un phénro se manifestera dans son vrai caractère, nous ayons de la parousia, et qu'à sa parousia, nous n'ayons pas honte devant lui. Ceci vous fait savoir que les enfants de Dieu doivent arriver à un état de parousia ou d'absence de crainte quand a lieu la grande présence de Christ et sa révélation, la manifestation de lui-même dans son vrai caractère. Rappelez-vous, dans 1 Jean 3, 1-2, on nous dit que lorsqu'il sera un phénro nous serons également phénro parce que nous voyons son phénro. Donc, essentiellement, nous commençons à faire un écho de lui et en faisant un écho de lui, nous commençons à manifester sa parole au monde, et ainsi comme son vrai caractère est révélé ou ouvertement manifesté à nous, nous, à notre tour, commençons à manifester ouvertement notre vrai caractère qui était prédestiné en nous dès avant les fondations du monde, qui est la parole venant encore à la manifestation. Ce mot « encore » signifiant un autre écho venant de l'original. Et nous savons que comme la parole parlait Esther l'original, chaque fois qu'elle se manifeste, elle fait l'écho à partir de l'original, encore et encore. Par conséquent, à ce moment-là, nous entrons dans un état d'assurance non réfrénée et de confiance ouverte. Cet état est le résultat du dévoilement de Christ. Il vient non seulement comme Marie, mais aussi comme notre avocat et notre juge. Comme Marie, il n'est pas tenu de témoigner contre nous, et comme notre avocat, il est notre avocat plaidant, et comme notre juge l'affaire est classée. Nous sommes prédestinés à Néhémie pas tomber. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il est le chef, auteur et le consommateur, finisseur, de notre foi. Comme Paul dit dans Galates 2, nous vivons par la foi du Fils de Dieu. C'est par sa foi que nous vivons, pas la nôtre. Par conséquent, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Que d'autres pourrions-nous demander? Cela apporte une confiance telle que jamais connue auparavant. Quand celui qui a donné la parole est ici pour la confirmer. Jean 4h17 voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de la parousia au jour du jugement, tel il est lui. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Remarquez, il y a encore cet écho. Tel il est lui. Tel nous sommes. Au jour où le juge est présent. Que nous trouvons dans Jacques 5, 9. Apoc. 3h20 et Jean 12h48, nous aurons la parousia, qui est une absence de crainte. Cela nous fait aussi savoir que cette parousia vient à la suite de l'avoir vu tel qu'il est vraiment. Puisque, tel il est lui, tels nous sommes. Et aussi nous savons que nous faisons l'écho de la vie éternelle. Cette seule déclaration nous assure d'énormes bénédictions et de la confiance ou l'absence de crainte. Comment Dieu pourrait-il renier n'importe quelle partie de lui-même? Il n'est mis le peu. Alors comment pourrait-il renier sa semence? Il n'est mis le peu. Alors que devons-nous craindre? Il est ici pour s'assurer que nous n'y tombons pas cette fois-ci. Dans Éphésiens 3h12 qu'agit nous lisons, en qui nous avons parusia et accès avec confiance par sa foi à lui. Remarquez, cette confiance non réfrénée ou absence de crainte vient par le fait de recevoir sa foi. On nous dit qu'elle vient par sa foi à lui. Ce n'est pas notre foi, mais sa foi qui fait cela. Jésus était le premier à faire preuve de cette audace non réfrénée parce qu'il savait qu'il était et qu'il avait envoyé comme nous le trouvons dans Jean au chapitre 6, 7, 8, 9 et 10 où, sans ménagement, il le faisait savoir aux pharisiens et aux chefs religieux de son jour. Nous voyons encore que l'apôtre Paul parle de la parousia dans Hébreux 4h16. Approchons-nous donc avec parousia du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, en vue d'un secours opportun. Dieu veut que nous entrions dans sa présence par la révélation avec la pleine assurance. Et il nous a assuré qu'en faisant ainsi nous bénéficierons non seulement de sa miséricorde, mais aussi de sa grâce qui satisfera n'importe quel besoin dont nous pouvons avoir. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Nous devons venir avec la confiance qu'il nous entend. Le fait même qu'il soit descendu en cette heure et se soit dévoilé lui-même à sa semence et nous a fait le connaître comme jamais auparavant et a établi une relation avec nous, nous fait voir combien il nous aime et veut communier avec nous. Puis, voyons par la parole révélée de cette heure notre position Christ, et notre relation avec Dieu comme notre tendre Père, nous comprenons plus clairement notre relation qui a commencé en lui dès avant les fondations du monde, où nous étions dans ses pensées et sommes finalement rendus manifestes dans cette heure. Quelle confiance cela devrait nous apporter! Nous trouvons encore dans Hébreux 10h35 « N'abandonnez donc pas votre parousia, qui comporte une grande récompense. Il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus, mais nous manquons de recevoir ce qu'il nous a déjà assuré par promesse. » Par conséquent, Paul nous dit ici que nous devons d'abord recevoir cette parousia afin de recevoir toutes les autres bénédictions qui nous sont prédestinées, surtout les promesses en rapport avec notre placement et notre héritage. Et remarquez ici qu'il dit, la parousia comporte une grande récompense. Maintenant, le mot récompense est une compensation donnée sous forme de dédommagement pour un mal acquis ou un dommage subi. Dieu sait que tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Ainsi, il nous donne une hardiesse pour tenir bon quand nous avons fait tout ce que nous pouvons faire pour tenir bon, et par la foi et la patience, nous hériterons des promesses. Nous voyons aussi dans 2 Thé 1, 4-5, 7, 10-12 que nous recevons un signe manifeste de Dieu qui nous juge dignes, et ainsi nous recevons sa façon de penser, sa gloire, son doxa. Dans Jean 16h25-29, nous voyons Jésus dire aux disciples la chose suivante au sujet de cette parousia. 25 Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je n'ai mis vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. 26 En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je n'ai mis vous dit pas que je prierai le Père pour vous. 27 Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. 28 Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. 29 Ses disciples lui dirent, voici que maintenant, tu parles parousia et que tu n'aimes dit rien en parabole. Jésus lui-même Esther plein de parousia, et il dit qu'au jour où il les révélera ou dévoilera le Dieu puissant devant nous, que nous aussi nous entrerons dans cet état de parousia et Néhémie seront pas empêchés dans notre prière à Dieu. Nous connaîtrons les volontés de Dieu et de la pensée de Dieu. Il fera preuve de parousia à notre endroit. Cela vous fait savoir que nous avons cette parousia de quelque chose qui nous est montré ou révélé. Et donc, nous en recevons l'écho, et de ce fait, nous en faisons l'écho retour à Dieu d'où Esther initialement venue. Dans notre texte, nous avons lu l'importance de savoir que nous faisons l'écho du Fils de Dieu. Et nous avons constaté que cela nous fait entrer dans le repos et l'assurance de la foi. Dans ce prochain verset, nous allons découvrir la preuve de notre parousia avec Dieu. 1 Jean 3h21 Bien-aimés, si notre cœur Néhémie nous condamne pas, nous avons de la parousia devant Dieu. L'état de notre cœur est la seule force qui peut ralentir notre parousia envers Dieu. Comme nous l'avons vu plus tôt, notre parousia vient par sa foi. Nous sommes assurés de recevoir sa parousia si nous recevons sa foi, si nous faisons son écho, nous faisons l'écho du Père. Et comment Dieu pourrait-il vous condamner de faire son écho? Chaque père veut que son enfant fasse l'écho de lui et de ses paroles. 1 Jean 5h13 Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Qu'agis et maintenant et Jean 5h14 Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Remarquez, il l'a dit selon sa volonté. C'est ce que Jésus a dit, je suis venu Dieu, pour faire ta volonté. Je suis venu pour manifester ouvertement tes pensées et faire perdre ton écho. Quelle confiance non réfrénée avons-nous en lui? Que nous sommes assurés qu'il nous exaucera toujours. Et rappelez-vous toujours, c'est Dieu qui produit d'abord en vous le vouloir et ensuite le faire. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.